Voilà, bah écoutez, ce matin, la semaine dernière, j'ai dit, je crois que la prochaine fois, on verrait la tour de Babel, mais je pensais pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est Pâques. Donc ça, ce sera pour la prochaine fois, d'accord? Mais aujourd'hui, je pouvais pas ne pas prêcher quelque chose sur la résurrection de Jésus-Christ, puisque c'est le jour de Pâques, et je pense que vous doutiez de cela. Donc en fait, alors voici le titre de mon message, d'accord? Le titre de mon message, il est celui-ci, qui va peut-être vous surprendre. Le voici. Et si la résurrection n'existait pas? Et si la résurrection n'existait pas? Si le concept de la résurrection n'était qu'une invention et qu'il n'y a rien du tout qui s'appelle la résurrection et si elle n'existe en fait vraiment pas? Voilà la question et voilà le titre de mon message. Alors, prenez vos Bibles et allons à 1 Corinthiens 15. Et vous allez voir en lisant ces quelques versets que je ne suis pas du tout le premier à avoir posé cette question. D'accord? C'est une question déjà qui était posée au tout début, lorsque Paul écrivait le livre de 1 Corinthiens. Donc on va lire à partir du verset 1, 1 Corinthiens 15 et le verset 1. Paul écrit, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Cephas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Or, écoutez, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Amen. Amen. Et oui, aujourd'hui c'est Pâques. C'est Pâques, c'est l'événement, en fait, les chrétiens, on peut dire, fêtent aujourd'hui l'événement le plus important de l'histoire du monde, la résurrection de Jésus-Christ. Cela veut dire, c'est ce que nous affirmons, que Jésus fut crucifié, qu'il est mort, qu'il fut enterré, que son corps a commencé à décomposer, et que 3 jours plus tard, ce corps en décomposition est revenu à la vie, Jésus est ressuscité. Voilà ce qu'on est en train d'affirmer. Alors il faut bien comprendre que la résurrection de Jésus-Christ est la base même du christianisme. Écoutez, sans résurrection, il n'y a pas de christianisme. Sans la résurrection de Jésus-Christ, le christianisme ne serait en rien différent de toutes les autres religions ou les options religieuses dans le monde. Ce serait encore une belle théorie, une belle religion, une belle philosophie. Sur quel sens donner à la vie? Et surtout une belle théorie, ce qu'il y aurait peut-être après la mort. Sans la résurrection, il faut comprendre que le christianisme serait vide de contenu. Christ a dit qu'il avait le pouvoir de pardonner les péchés. Comment cela peut-il se faire sans la résurrection de Jésus-Christ? Et vous allez mieux comprendre dans les minutes à suivre. Oui, la résurrection, mes amis, est non seulement le point central du Nouveau Testament, mais de toute la Bible. Car il fallait que le Messie à venir puisse ressusciter des morts. Juste quelques versets. Dans l'Ancien Testament, un verset que je cite souvent dans Job, Job 19, parce que Job était probablement, chronologiquement, le premier livre écrit dans la Bible. Job 19, 26, Job écrit ceci, « Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. » Donc, Job savait qu'après la destruction de sa chair, il verrait Dieu. Ben, comment c'est possible s'il n'y a pas de résurrection? Le psaume 16:10, David dit, « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Ah, intéressant. Ésaïe 26:19, « Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent, réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. » Tout ce qu'on est en train de montrer, c'est que l'Ancien Testament parle clair et net de la résurrection et d'une résurrection. Encore Daniel 12:2 qui dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ah, ce verset est très intéressant. Il dit que ceux qui dorment dans la poussière de la terre, donc parlant de la mort, se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, la honte éternelle. Donc il y a quelque chose après la mort, il y a bien sûr la vie après la mort. Alors ces versets dans le Nouveau Testament, peut-être vous connaissez aussi, dans Jean 11, vous rappelez, c'est l'histoire de Lazare qui ressuscitait les morts. Et dans Jean 11, 23, Jésus dit à Marie, ton frère ressuscitera. Et dans Jean 11, 24, elle répond, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. La résurrection. Jésus en parle. Dans Jean 11, 25, il continue, « Je suis, Jésus dit ici, je suis la résurrection et la vie. » C'est ce que Jésus dit. « Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Allez voir, Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Alors, où il l'est, où il ne l'est pas. Et il dit, « Si tu crois en moi, même si tu meurs, tu vivras et tu ne mourras jamais. » Donc, il y a la vie après la mort. C'est ce qu'il affirme. Dans Matthieu 16, 21, « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, les principaux sacrificateurs et les scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. » C'est Jésus qui a dit ça. Jésus dit à ses disciples, « Écoutez, je vais aller à Jérusalem, je vais mourir, et trois jours plus tard, je vais ressusciter des morts. » Alors, ça c'est très dangereux de dire ça, parce que si tu dis ça, ça veut dire que c'est quelque chose qui va être prouvable. Si tu dis à quelqu'un, écoute, je vais mourir, d'accord, la semaine prochaine, disons que je vous dise, écoutez, mardi prochain, je meurs, d'accord, trois jours plus tard, donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je vais ressusciter des morts. Ben, vous allez faire quoi? Ou bien vous me prenez pour un fou, ou bien vous allez venir voir pour voir si c'est vrai. C'est aussi simple que ça. C'est hyper prouvable, ça. C'est exactement ce que Jésus a fait. J'ai lu Jésus parlant au festin auquel les pauvres et les estropiés sont invités. Il dit ceci dans Luc 14, 14. « Et tu seras heureux de ce qui ne peuvent pas rendre le pareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. » Jésus ne fait que de parler de la résurrection. Dans Jean 6, 39 et 40, « Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien du tout de ce qu'il m'a donné, car je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai le dernier jour. » Et ce que je trouve intéressant, Paul dit dans Actes 26, 8, « Quoi ? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts ?» Paul dit, mais allez voir, franchement, arrêtez les gars. Est-ce que vous croyez que c'est une chose incroyable d'imaginer que si Dieu est Dieu, qu'il puisse ressusciter un mort? Si c'est Dieu, parce que Dieu ne peut pas ressusciter un mort, c'est quand même, ça ne devrait pas être incroyable comme idée, ça. Conclusion. C'est que l'Ancien et le Nouveau Testament parlent abondamment du concept de la résurrection. Et l'affirment comme étant vrai, absolu, sans équivoque. Alors, revenons à notre texte d'aujourd'hui dans 1 Corinthiens 15. C'est un texte important car il est dédié à un seul et unique sujet. Tout le chapitre est dédié à la résurrection. Alors, on a lu les premiers quelques versets, les premiers versets 1 à 11. Les versets 11 nous donnent, les premiers versets nous donnent les quatre évidences que la résurrection a bien eu lieu. Alors, on ne va pas les regarder parce que c'est un autre message, mais juste je vais les mentionner. D'accord ? Dans le verset 4, il dit que le premier témoin de la résurrection, ce sont les Écritures. D'accord ? Dans 1 Corinthiens 15, j'y vais. Verset 4, il dit tout simplement... verset 3, « Je vous ai enseigné avant tout, comme j'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, qu'il ait été enseveli, qu'il ait été ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Donc, premier témoin, c'est les Écritures. Deuxième témoin, ce sont les témoins. Verset 5, « Et qu'il a apparu à Cephas, puis aux 12, ensuite il est apparu à plus de 500 frères. » Donc, il y a plein de gens, plus de 500 personnes qui ont vu Jésus ressuscité. Troisième chose, Paul, verset 8, « Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi. » Ça vous rappelez, c'est dans Acte 9, la conversion de Paul. Et finalement, verset 11, « Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est que vous avez cru, eux, donc, les témoins. » Donc, on établit dans les premiers 11 versets de 1 Corinthiens 15 que la résurrection est une chose qui est prouvable par les témoins, par la parole de Dieu et par Paul lui-même. Donc, tout ce qu'on est en train de dire jusqu'à maintenant, c'est que la résurrection est affirmée clairement dans la Bible de manière catégorique. Et la Bible affirme que Jésus-Christ lui-même est ressuscité des morts, clair et net. Ah, mais voici la question. Supposons que c'est faux. Supposons que c'est faux. Supposons pendant un instant que c'est qu'une invention et que les morts, en fait, ne peuvent pas ressusciter. Imaginons un instant qu'après la mort, en fait, il n'y a rien du tout. C'est le néant. Il y a zéro. On meurt, terminé. On disparaît simplement, c'est fini, il n'y a plus rien. Cela voudrait dire qu'en fait, la résurrection de Jésus n'aurait jamais eu lieu. C'est une invention, que c'est faux. Et que la résurrection, même le concept, est faux et n'existe pas. C'est pas possible de ressusciter. Alors, c'est intéressant parce que c'est précisément la question que Paul aborde dans nos textes aujourd'hui. Car dans l'église de Corinthe, à qui il écrivait cette épître, il y avait des sceptiques qui n'étaient tout simplement pas prêts à avaler ce qu'il venait d'affirmer sur la résurrection. Tu rêves, Paul. Regardez le verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, c'est ce que Paul faisait, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts ? Donc il y avait dans l'église de Corinthe une nouvelle église, bien sûr, une jeune église, il y avait des gens qui n'étaient pas convaincus de ce que Paul affirmait concernant la résurrection de Jésus-Christ. Ils n'arrivaient pas à gober le fait que la résurrection était plausible. Alors Paul, dans les prochains versets, décrit quelles seraient les conséquences désastreuses s'il n'y a pas de résurrection. Alors c'est super, parce que c'est vraiment de l'apologétique quelque part, il est en train de prendre l'argumentation à l'envers et de dire, voilà, ben, s'il n'y a pas de résurrection, voici le problème. C'est vraiment intéressant. Donc là, il nous donne 8 conséquences désastreuses s'il n'y a pas de résurrection. On va les prendre une à la fois, vous voyez, c'est très intéressant. Numéro 1. Première conséquence désastreuse s'il n'y a pas de résurrection, Christ ne serait pas ressuscité. Christ ne serait pas ressuscité. Le verset 13, « S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. » Et le verset 15, « Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. » Alors bien sûr, c'est une évidence ici, c'est une évidence à souligner. Si le concept de la résurrection n'existe pas, si les gens ne peuvent pas ressusciter les morts, si l'acte de ressusciter les morts est impossible, irréalisable, inexécutable, et donc non existant, alors cela veut dire que Christ n'est pas ressuscité des morts. Si la résurrection est impossible, ben Christ n'est pas ressuscité, même si on l'affirme. Même si les chrétiens le proclament haut et fort qu'il est ressuscité, en fait, si la résurrection est impossible, il n'est pas ressuscité. Donc, nous nous trompons. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors, quelles ont été les diverses explications de sa soi-disant résurrection? Premièrement, que Jésus n'était pas vraiment mort, juste évanoui, ça vous l'avez déjà entendu, n'est-ce pas? Écoutez, si vous voulez croire cela, alors il faut expliquer la pierre de 2 tonnes que Jésus aurait silencieusement déplacée tout seul et déplacée à plusieurs mètres de la tombe, et aussi expliquer la garde romaine de 16 soldats armés jusqu'aux dents pour garder la tombe de laquelle Jésus ne saurait échapper sur la pointe des pieds pour ne pas réveiller ses gardes car il dormait. Et cela après avoir été lacéré, fouetté, crucifié et laissé pour mort dans la tombe sans nourriture ni eau pendant 3 jours, et une fois sorti de la tombe, il s'est fait passer pour un Jésus ressuscité. Si vous voulez croire ça, chapeau. Autre théorie, que les femmes qui auraient vu la tombe vide se seraient trompées de tombe. Ah, mais ouais, elles se sont trompées de tombe. Alors le problème avec cette thèse, c'est que c'étaient les mêmes femmes qui avaient été à la tombe lorsqu'ils l'ont enterrée. Et cela veut dire que si elles se sont trompées de tombe, Pierre et Jean aussi se sont trompés de tombe, mais encore plus important, les anges se sont trompés de tombe. Ça me pose un problème aussi. Certains disent, non, mais ce sont les disciples qui ont volé le corps et ont menti par rapport à la résurrection de Jésus. Alors le problème avec cette thèse, c'est qu'ils venaient tous d'abandonner Jésus lors de son arrestation, et pour voler le corps, il fallait liquider les 16 soldats romains qui gardaient la tombe. C'était la thèse au fait que les juifs ont voulu faire passer. Mais encore plus troublant, ils auraient menti en tout état de cause. Problème, on ne donne pas sa vie pour un mensonge que l'on sait être un mensonge. Ça veut dire qu'ils savaient que c'était un mensonge, mais ils sont morts pour un mensonge? Non, les gens ne font pas ça. Non, car tous sont morts pour leur foi, ayant affirmé haut et fort qu'ils avaient bien vu Jésus ressuscité, sauf pour un, le traître nommé Judas. Donc, qu'est-ce que Paul dit au verset 13? Si la résurrection n'existe pas, alors Christ n'est tout simplement pas ressuscité, malgré ce que prétendent les chrétiens. Deuxième conséquence désastreuse s'il n'y a point de résurrection, la prédication de l'évangile serait vaine. La prédication de l'évangile serait vaine. Regardez le verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Alors ça, c'est un point vraiment capital. La bonne nouvelle de l'évangile, hein, on appelle ça la bonne nouvelle de l'évangile, est basé sur la nécessité absolue de la résurrection de Jésus-Christ. Pourquoi? Bien, vous voyez, mes amis, la résurrection est essentielle, car c'est par elle que le péché, la mort et l'enfer ont été vaincus. C'est ce qu'il dit au verset 3. Je vous ai enseigné avant tout que j'avais reçu que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Voyez-vous, le grand drame de l'humanité, c'est quoi? Ben, c'est la mort. C'est la mort. Alors je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que nous mourons? Pourquoi mourons-nous? Eh bien, vous connaissez déjà la réponse, puisqu'on est en plein dans Genèse 2,17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu ne pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. La raison pour laquelle nous mourons, c'est à cause de notre désobéissance à Dieu, notre péché vis-à-vis de Dieu. C'est le salaire du péché. Et Satan est venu pour dire à Adam et Ève, mais non, vous ne mourrez pas. Mensonge. Oui, nous mourons à cause de notre péché. Le monde entier était contaminé selon Romains 5, 12. Et Romains 6, 23 nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Éphésiens 2, vous connaissez, n'est-ce pas? Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Et regardez en Corinthiens 15, 55 et 56. Ô mort, qu'est devenue ta victoire? Ô mort, où est ton dard? Où est ton aiguillon? Le dard ou l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Mais bien sûr, mes amis, le grand drame de l'humanité, c'est quoi? Ben, c'est la mort. Tous les hommes doivent mourir. Et qu'y a-t-il après la mort? Voici la grande question que tout le monde se pose. Alors, quelle est la solution à la mort? Ben, vous auriez dû venir avec moi, mon épouse et moi, on est allés voir les Dunant hier. Écoutez, franchement, ce couple, il m'étonne. Jean-Jacques Dunant, il est âgé, il a 80, je crois, 7 ans. Il a eu des problèmes de cœur cette semaine. Il était à l'hôpital. Là, il était de retour. Ils ont tout pu calmer son corps, son cœur. Et hier, il nous disait, j'ai réalisé que c'était pas mon heure. J'ai réalisé que c'était pas mon heure, mais je suis prêt. Grand sourire. Et on a parlé du Seigneur. Je me suis dit, mais attendez, voir. C'est quoi un chrétien qui peut dire ça? Ah, je pensais que c'était peut-être mon heure mardi dernier, mais c'était pas mon heure. Donc j'attends mon heure. Mais je suis prêt. Moi je suis prêt. Quand il me prend, je suis prêt. Grand sourire. Non mais attendez voir là. Juste ça, ça devrait vous convaincre de devenir chrétien si vous n'êtes pas chrétien. Vraiment. Vous voyez, c'est quoi la solution à la mort? C'est la solution du péché, puisque le péché provoque la mort. Donc, il faut trouver la solution au péché. Et c'est quoi la solution au péché? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est ce qu'on vient de lire dans Corinthiens 15. Mort et ressuscité. Il a pris sur lui mon péché, lui qui était sans péché. Il est mort à ma place. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est ressuscité des morts, qui veut dire qu'il a vaincu la mort, qui veut dire qu'il a vaincu le péché. Et dans Jean 5, 25, écoutez ce verset incroyable, dans Jean 5, 25, Jésus parle et il dit, « en vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. » Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Jésus a la clé de la mort. Lui seul peut vaincre la mort, puisqu'il est Dieu incarné. Jean 2, 19, vous vous rappelez, c'est des versets que vous connaissez très très bien. Voici le 2, 19, Jésus dit ceci. Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Alors les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Mais, verset 21, il parlait du temple de son corps. De son corps. Voyez-vous, Jésus a prédit tout le long de son ministère qu'il allait ressusciter et qu'il avait le pouvoir de se ressusciter lui-même. Et bien sûr, de nous ressusciter. Donc, Jésus-Christ a réellement vaincu la mort. Cela veut dire qu'il est au-dessus de la mort. Et cela veut, bien sûr, logiquement dire qu'il est au-dessus du péché qui provoque la mort. Donc, qui a la solution au problème de l'homme? Qui a la solution au problème de la mort? Qui est la solution au problème du péché? Celui qui a vaincu la mort. C'est le seul. C'est le seul. Alors, vous savez ce que je viens de faire là? Je vous prêche l'évangile. C'est ce que je suis en train de faire là. Mais s'il n'y a pas de résurrection, si c'est faux, eh bien ça veut dire que Jésus n'est pas ressuscité des morts. Alors la prédication de l'évangile est vaine, inutile et même idiote. C'est ce que Paul dit dans Corinthiens 15. Jean 11, Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » C'est intéressant, vous ne trouvez pas? Donc dans Corinthiens 15, c'est ce qu'on voit. La prédication de l'évangile serait vaine, verset 14. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. 3. Troisième conséquence désastreuse, s'il n'y a pas de résurrection, la foi en Christ serait vaine. Verset 14, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Alors qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Si Christ n'est pas vraiment ressuscité, cela veut dire que le jour où j'ai cru en Jésus-Christ pour être pardonné de mes péchés et recevoir de lui la vie éternelle, serait en fait une illusion totale. Bien que j'ai cru avoir été sauvé ce jour-là, bien que j'ai cru avoir été pardonné ce jour-là, bien que j'ai cru ce jour-là avoir la vie éternelle, en réalité, si la résurrection n'existe pas, rien du tout s'est vraiment passé ce jour-là. Et pour vous non plus. Ce n'est qu'une situation d'avoir pris mes désirs comme une réalité. Cela voudrait dire que Jésus n'est pas ressuscité. Donc mon sauveur est un sauveur mort, il n'est pas vivant. Il n'a donc aucun pouvoir dans ma vie. Lorsque je prie à lui, je prie en l'air. Tout à l'heure on a prié en l'air. Lorsque je crois qu'il me guide, ce n'est qu'une illusion. Lorsque je pense que la parole de Dieu me parle, ce n'est ni la parole de Dieu, ni Dieu incarné en Christ qui me parle. Car la parole affirme la résurrection de Christ, mais elle est erronée et donc elle est fausse. Donc je suis un fou de faire confiance en cette parole. Moi, je proclame ouvertement autour de moi qu'à partir du jour où j'étais touché par la grâce de Jésus-Christ ressuscité, celui-ci est venu habiter en moi et vivre en moi. Galates 2:20 nous dit ça, que Christ vit sa vie en nous. C'est ce qu'on dit aux gens. Et à partir de ce jour, cette transformation de mon cœur a fait que dorénavant, je veux lui obéir et le suivre. Un de mes versets préférés dans le Nouveau Testament, c'est Romains 6:17 qui dit ceci. « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Pourquoi, ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. » Donc voilà ce qu'on affirme. On dit aux gens, écoute, si tu reçois Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, il va venir en toi. Il va transformer ton cœur et les désirs que tu avais pour les péchés vont être transformés. Dorénavant, tu vas haïr le péché et tu vas aimer ce que Dieu aime, la justice. Et ma plus grande joie aujourd'hui, c'est de pouvoir obéir au Seigneur et faire ce qu'il demande de moi. Mais ce serait tout faux, ça. Ce serait tout faux. Ce serait une pure invention de ma part. Si Christ n'est pas ressuscité, si la résurrection n'existe pas. Encore plus dramatique est de constater que tous les chrétiens dans l'histoire qui ont été persécutés, torturés et tués pour leur foi, ils l'ont fait pour avoir proclamé un Jésus-Christ ressuscité, mais qui en fait ne l'était pas. Donc c'était complètement inutile. Voyez-vous ? Si la résurrection n'existe pas, si Jésus n'est pas ressuscité, ça veut dire que ma foi et ta foi est vaine. Elle est vide. Ça veut dire que nous croyons en mensonge. Et l'on fait que de croire une énorme illusion. Et en fait, tu sais quoi? Tu es en train de perdre ton temps, mais alors quelque chose de majestueux. Tu pourrais être en train de dormir maintenant. Imagine dimanche matin, la grâce matinée. Qu'est-ce que tu fais là, franchement? Pourquoi tu te déplaces pour venir ici les dimanches, si c'est tout faux? Vous vous rendez compte, quand même, les implications. En fait, je pourrais dire avec le psalmiste dans le psaume 73:13, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Et dans Ésaïe 49:4, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. En fait, je me bats même contre ma chair, mais en vain. Ma foi est vaine. Au lieu de purifier ma vie, au lieu de marcher avec le Seigneur, au lieu de me battre avec ma chair, je devrais éliminer des versets comme 1 Jean 2:15, « N'aimez point le monde, ni les choses du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Et tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père mais du monde. Mais je suis fou de croire ça, je devrais en faire l'opposé. » Aimez le monde, aimez les choses dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père, ça je sais pas quoi faire avec. Je continue. Car tout ce qui est dans le monde, c'est super. La convoitise de la chair, top niveau. La convoitise des cieux, génial. L'orgueil, fonce. Mais c'est pas ce qu'on dit. C'est le monde à l'envers. Et encore plus dramatique, si l'évangile d'un Christ ressuscité est faux, les conséquences sont encore plus terribles. Cela voudrait dire que Jésus est mort en vain, les disciples sont morts en vain. Et cela est troublant parce qu'ils sont tous martyrisés, sauf Judas, pour rien du tout. Paul fut emprisonné et martyrisé en vain. Les martyrs de Hébreux 11 ont été torturés en vain. Et tous les martyrs chrétiens depuis sont morts en vain. Waouh! Voyez-vous, si Christ n'est pas ressuscité, il n'y a pas d'évangile, et notre foi est vaine. Quatre. La quatrième conséquence désastreuse, s'il n'y a pas de résurrection, ceux qui proclament la résurrection seraient des menteurs. Ah là là, ça c'est vraiment génial. Regardez, on est de nouveau dans 1 Corinthiens 15 et le verset 15. C'est tellement intéressant, vous ne trouvez pas la Bible. C'est vraiment de l'apologétique ici. Regardez verset 15. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Jésus-Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Voyez-vous, il continue la logique des choses ici. Si la résurrection n'existe pas, Christ n'est donc pas ressuscité, et donc la prédication de l'évangile est vaine, notre foi est vaine, mais cela veut dire que ceux qui proclament l'évangile sont en fait des menteurs. Ce que je suis donc, ou ce que je serai donc. Ben c'est logique. Si la chose que nous appelons la résurrection des morts n'existe pas, alors proclamer la résurrection des morts n'est rien d'autre qu'un mensonge. Donc tous ceux qui proclament la résurrection de Jésus-Christ sont que des menteurs. Voilà. Pierre, Jean, Jacques, tous les autres, menteurs. Jésus, menteur. Moi, menteur. Et Pâques, ça j'ai trouvé quand même marrant. Pâques, c'est un mensonge. Et pourtant, on reçoit tous des vacances pour un mensonge. C'est quand même incroyable. Donc ça veut dire que le monde s'est fait complètement avoir, énerrer, et donne des vacances pour un mensonge. Votre congé est basé sur un mensonge. Mais il ne faut pas le dire, d'accord? Il ne faudrait pas le dire. Parce que personne ne veut... Comment dire, sacrifier son congé, ça c'est sûr. Mais c'est ce que les libéraux concluent, que la résurrection de Jésus est fausse, c'est donc un mensonge. Et ils disculpent les chrétiens en disant, ouais, mais ils sont naïfs, des victimes de quelque sorte d'invention longue date, ancienne. Mais cette hypothèse est vraiment pire que la première. Il est tout simplement impensable et impossible que les apôtres et Jésus ont cru une supercherie sans s'en rendre compte. Allez avec moi à Jean 20, je vous montre un verset intéressant. Jean 20, vous connaissez ce texte très connu. Vous vous rappelez, Jésus est apparu, il est ressuscité, il est apparu aux disciples, mais ils étaient tous là sauf un Thomas. Et au verset 24 de Jean 20, il est dit, Thomas appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées. Et ce petit détail, c'est pour nous montrer qu'il a traversé le mur ou la porte et a ressuscité. Il se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » Et Thomas lui dit, « Mon Seigneur est mon Dieu. » Et Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Je trouve tellement intéressant ce qui s'est passé ici. Et ce verset, c'est un des textes les plus clairs dans le Nouveau Testament par rapport à la divinité de Jésus-Christ. Thomas, il dit, « Mon Seigneur est mon Dieu. » Alors les témoins de Jéhovah affirment que Thomas, dans ce verset, était tout simplement en train d'exprimer une surprise. Vous savez, comme des fois on dit, il y a un accident. « Oh mon Dieu !» Il dit « Oh mon Dieu !» Vraiment ? C'est tout ce qu'il est en train de dire ici ?« Oh mon Dieu !» comme ça ?« Oh, oh !» Une autre explication avancée, ce qu'est Jésus à cet instant, apparaissait comme un Dieu, mais ce n'est pas vraiment un Dieu. Donc il donna l'impression d'être un Dieu, et donc Thomas réagissait émotionnellement, mais sans fondement. Le problème, est-ce qu'on peut vraiment conclure qu'en voyant Jésus ressuscité devant lui, Thomas a dit « Oh mon Dieu, oh surprise, impossible, car cela aurait été équivaut à prendre le nom de Dieu en vain, et pour les Juifs du premier siècle, cela aurait été considéré un blasphème, et Jésus assurément l'aurait repris pour ce blasphème, ce qu'il n'a pas fait. Au contraire, au verset 20, il le félicite pour le fait qu'il a enfin cru qu'il était son Seigneur et son Dieu. » Et de la théorie comme quoi Thomas aurait conclu l'apparence de Jésus qui était comme Dieu, alors Jésus l'aurait aussi repris pour conclure quelque chose de faux à son égard. Non, notons bien ici que Thomas dit, il lui dit, « Mon Seigneur est mon Dieu ». Il n'y a pas autre manière de l'interpréter. C'est un des versets les plus clairs dans le Nouveau Testament par rapport à la divinité de Jésus-Christ. Et ce qui est intéressant, c'est que Thomas et tous les autres sont morts pour avoir proclamé une résurrection. Donc s'ils savaient que c'était un mensonge, ils ne leur auraient pas donné leur vie pour ça. Mais Thomas affirme, non, je l'ai vu, j'ai peut-être même touché Jésus ressuscité. Et il est mort pour cette vérité. Incroyable. Est-ce qu'il était menteur ? Je ne pense pas qu'il était menteur. Non, je ne pense pas qu'il était menteur. C'est ce que je trouve intéressant. Si la résurrection est un mensonge, si vous allez sur le mur de la Réforme, vous verrez que Jean Calvin est mis en honneur parce que Jean Calvin prêchait l'Évangile. La mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et l'effet dans le monde a été absolument fulgurant. Tout le long du mur de la Réforme, on voit les effets de l'Évangile tout autour du monde. Et tous les effets positifs. 5, il faut que j'avance. 5. 5e conséquence désastreuse, s'il n'y avait pas de résurrection, les chrétiens seraient encore dans leur péché. Regardez versets 16 et 17, on est de nouveau dans Corinthiens 15. Encore un Corinthiens 15, 16 et 17. « Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. » Écoutez, c'est la pire des conséquences, mes amis. Cela veut dire, en fin de fond, que les croyants ne sont en rien différents que les non-croyants. Les croyants sont encore dans leurs péchés. Il n'y a pas eu de pardon. Ce pardon n'existe en fait pas. Et parce que personne ne peut vaincre la mort et donc personne ne peut vaincre le péché. Voilà ce que ça voudrait dire. Voilà ce que ça voudrait dire. Dans Jean 8, 21, il est dit ceci. Jésus leur dit encore, « Je m'en vais et vous me cherchez, vous mourrez dans vos péchés. Vous ne pouvez venir où je vais. » Sur quoi les Juifs dirent, « se tuerait-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais? Il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes dans ce monde, moi je suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous dis que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Écoutez, mes amis, la résurrection n'est pas une mince affaire. Si tu décides de ne pas croire en la résurrection, tu mourras dans tes péchés, c'est aussi simple que ça. Et ça, c'est pas top. Ça, c'est pas top de mourir dans ses péchés, parce que c'est toi qui vas devoir vivre les conséquences du courroux de Dieu pour tes péchés, au lieu que ce soit Jésus qui est mort à ta place. Ha ! Mais si tu crois en la résurrection, bien ce verset est vrai pour toi. Que votre cœur ne se trouble point, Jean 14, 1, croyez en Dieu, croyez en moi, Jésus parle. Car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Promesse qu'il va nous prendre avec lui et nous ressusciter avec lui. Christ est mort. Il est ressuscité, mais s'il n'est pas ressuscité, ben il n'est pas différent que Bouddha. Bouddha est mort. Confucius, il est mort. Mohamed, il est mort. Jésus, il est mort. Mais il est ressuscité. Ça change tout. Lui seul peut pardonner tes péchés. Sixième conséquence désastreuse, s'il n'y a pas de résurrection, les croyants décédés seront perdus ou seraient perdus, verset 18, et par conséquence aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Il y a cette autre conséquence. Puisqu'il n'y a pas de pardon des péchés s'il n'est pas ressuscité, et puisque les chrétiens qui sont déjà morts sont déjà morts, ça veut dire qu'ils sont morts dans leurs péchés. Ça veut dire que tous ces chrétiens du passé sont aussi perdus. Donc, tout ça c'est faux. Mais moi ce que je trouve dingue, dans Luc 23, 43, Jésus dit ceci au brigand sur la croix à côté de lui. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, quoi ? Tu seras avec moi où ? Dans le paradis. Ben, s'il n'y a pas de résurrection, c'est faux. Alors, il faut se décider, là. C'est incroyable. C'est tellement génial. Attendez voir. Vous voyez, ça veut dire que tous les chrétiens qui sont morts avant cette date sont avec le Seigneur puisqu'il est ressuscité. Alors, s'ils ne sont pas au paradis, ils sont où? Certains disent qu'ils sont anéantis, d'autres au purgatoire, d'autres qui seront réincarnés. Donc dans le nirvana, improuvable. Improuvable. Belle théorie, improuvable. Non, la seule preuve, c'est de voir quelqu'un qui est mort et ensuite trois jours plus tard qui est ressuscité. Ça, c'est la preuve. Et c'est exactement ce que Jésus a fait. Septième conséquence désastreuse s'il n'y a pas de résurrection, les hommes n'auraient qu'à espérer dans cette vie. Le verset 19, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Ça veut dire que la vie, mes amis, termine le jour où tu meurs. Alors statistiquement, j'ai encore 27 ans. Nous qui croyons en Christ, rien ne s'arrête le jour où on meurt. C'est le début de la belle vie. En fait, vous savez que pour un chrétien, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le pire qu'on va jamais expérimenter de notre vie. Parce qu'une fois qu'on meurt, tout est mieux. Mais pour le non-chrétien, celui qui ne croit pas à la résurrection, ce qu'il vit aujourd'hui, c'est le meilleur qu'il aura. Parce qu'après, c'est horrible. C'est quand même incroyable de penser ces deux perspectives sur la vie. Vous dites quoi? Ce sera pire après pour eux? Bah plutôt, Jean 3, 36 le dit clairement, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, pour le non-chrétien, ce qu'il a maintenant, c'est le mieux de ce qu'il peut savoir et connaître. Et pour nous, c'est le pire. Donc, si Dieu t'a béni et t'es heureux, c'est le pire que tu vas connaître. C'est que mieux après. Donc, le but de la vie, ce serait quoi ? Profite au maximum. Accumule au maximum que tu peux. Éclate-toi. Lâche-toi. Abandonne la moralité. Abandonne les lois. Bon, tu es triste, peut-être retourner en prison, alors fais un petit peu gaffe quand même, d'accord ? Mais éclate-toi. Laisse-toi. Lâche-toi. Mais franchement, c'est logique. Si la résurrection n'existe pas, lâche-toi. Sors d'ici en courant. On est en train de te mentir, là, à fond la caisse, en fait. Je vais raconter cette histoire. J'ai un ami Steve Nas, qui a déjà prêché ici. Son père était un enterrement. Son père était un homme de peu de parole. Il y avait un homme très, très riche dans sa ville, à New York, qui est mort. Ils étaient tous là à l'enterrement. Et il enterrait cet homme, mais il était très riche. Alors, le gars à côté du papa de Steve Nas lui a dit, « Tu crois qu'il a laissé combien ?» À quoi il a répondu, tout. Je trouve ça génial. Profite, parce que le jour de ta mort, de toute façon, tu perds tout. Voilà. Tout part. Mais si Christ est ressuscité, prépare-toi. Prépare-toi. Huitième conséquence désastreuse, s'il n'y a pas de résurrection, les chrétiens seraient donc les gens les plus malheureux sur terre. C'est ce qu'on voit au verset 19b. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a ni sauveur, ni évangile, ni pardon de péché, ni résurrection, ni ciel, ni espérance, ni foi, ni vie, ni rien. Alors, tout ce que nous croyons, c'est faux. Nous vivons une illusion totale, une surpercherie la plus massive, la plus imaginable du monde. Et là, on souffre et on sacrifie pour rien. Et en plus, lorsque tu donnes de l'argent pour l'avancement de l'évangile, tu es en train de t'approvir pour un mensonge. Mais c'est quand même le comble. Garde ton argent. Alors, qu'en est-il ? Allez, on termine avec ça. Je vous lis juste ce passage. Matthieu 28, on termine. Matthieu 28, regardez. Voici la réalité des choses. Christ est ressuscité. Matthieu 28, 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. » Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Et elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Elles l'adorèrent. Jésus, mes amis, est ressuscité. Il est ressuscité. Et voilà pourquoi nous célébrons Pâques. Parce que Jésus est ressuscité. J'espère que ça va pour toi. J'espère que tu sais que tu es en Christ et que tu es en fait ressuscité. La Bible nous dit que nous sommes déjà ressuscités avec lui spirituellement et que cette résurrection se concrétisera le jour de notre mort. J'espère que vous êtes comme Jean-Jacques Dulan qui m'a beaucoup impressionné hier. Peut-être vous avez dans votre vie déjà passé par un moment, vous savez, ces accidents, on se dit, je viens d'avoir un presque accident, on se dit, mais tiens, mais j'aurais pu être tué. Vous avez déjà eu ce genre de choses? Vous êtes passé à une seconde de la mort, hein, un train ou une voiture ou un piéton, je ne sais pas, vous voyez. Et vous dites, est-ce que vous êtes comme Jean-Jacques Dunant, qui a dit, tiens, c'était pas mon heure, mais je suis prêt. C'était pas encore mon heure, mais je suis prêt parce que je sais en qui j'ai cru, mon ressuscité. Prions. Père, merci, merci de tout cœur pour ce texte dans Corinthiens 15, Seigneur. Combien il est puissant. Combien il nous touche, Seigneur. Et merci parce que ce texte nous fait réfléchir autrement sur la résurrection, Seigneur, par une sorte de logique inverse. Oh Seigneur, mais cette logique nous confirme de tous les points de vue la véracité de la résurrection, oui, elle existe. Seigneur, la Bible en parle du début jusqu'à la fin. La Bible nous dit qu'un jour Jésus va revenir nous chercher, Seigneur. Ça implique qu'il est vivant aujourd'hui, il est ressuscité, il a été élevé au ciel, comme nous le dit Acte 1, Seigneur. Et ce jour arrivera, nous ne savons pas quand, ni le jour, ni l'heure. Mais Seigneur, sommes-nous prêts? Merci de nous avoir pardonné tous nos péchés, Seigneur. À toi toute la gloire. Et si quelqu'un ici ce matin a un doute par rapport à son propre salut, qu'il puisse tout simplement, dans son cœur, dire Jésus. Jésus, je crois que tu es ressuscité. Je crois que tu as le pouvoir d'ôter mon péché, de me le pardonner. Seigneur, je suis un pécheur et enlève ce fardeau, enlève mon péché. Merci pour ton sang qui a coulé pour moi, Seigneur. Et merci pour cette promesse de la vie éternelle à cause de ta résurrection. Fais-moi un de tes enfants maintenant. Ce jour de Pâques, maintenant. Seigneur, à toi toute la gloire. Et nous qui te connaissons déjà, Seigneur, à marcher des vies de ressuscité. Oui, il y a des problèmes, il y a des soucis, il y a des épreuves. Mais Seigneur, tu as vaincu. Tu as vaincu tout cela. Notre espérance est en toi. Merci de nous donner la joie qui ne découle que de toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.